la lumière et la vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.
Merci, Denis. Et bonjour tout le monde. Pour ceux que je n'ai pas encore vus tout à l'heure pendant le goûter, la semaine dernière, on a eu une petite discussion entre nous. Là, on s'est dit, mais oh là là, comment il y avait à peine 10 personnes qui sont venues. On s'est dit, ouais, vraiment quoi, l'Église francophone, on a peut-être besoin de qu'est-ce qu'on a besoin de faire en fait pour que qu'il y ait du monde qui vienne, pas seulement de voir. Enfin, on n'est pas en train d'organiser un spectacle tous les dimanches, quoi. Tu vois, et voir des gens venir, c'est pas là. Mais c'est le fait de pouvoir vivre ensemble ce que nous vivons, ensemble avec le Seigneur, de pouvoir partager l'Évangile aux gens, et de pouvoir grandir ensemble également en Église. Parce que de toute façon, tel est l'Évangile, c'est de pouvoir vivre également tout cela en Église, tout ce que nous vivons en Église, ensemble. Donc on s'est dit, ouais, souvent ce qu'on fait, c'est peut-être d'organiser des événements, tu vois, pour attirer les gens, c'est ce qu'on fait souvent. Est-ce qu'il faudra aller sortir et puis aller cogner aux portes des uns et des autres pour parler à Jésus comme font les témoins de Jéhovah là? Ou bien est-ce qu'il faudra je sais pas, il faudra peut-être aller distribuer des cartes, des pas des cartes, mais comment on appelle ça, les flyers, c'est tout ça, par-ci, par-là. Bon, on s'est dit, mais non, c'est pas vraiment notre culture, globalement. On n'est pas contre cela, hein. On peut le faire. On peut organiser des tas de trucs, mais je pense que c'est pas vraiment notre culture dans laquelle nous avons évolué dans cette église. Mais on s'est dit, mais en fin de compte, le plus important, c'est toujours la relation. La relation qu'on a avec les gens. Et c'est par le biais de cette relation que nous avons avec les gens que nous pouvons inviter les gens vers le Seigneur, mais également à vivre cette vie d'église par la relation. Et c'est le thème que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est sur la relation. Il y a une photo que Daniel va nous envoyer là, ou pas? 2, 3. Vas-y, oui, c'est ça. Vous connaissez cette personne? Oui, c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, pour ceux qui le connaissent, c'est un écrivain et un philosophe français du 20e siècle, du siècle dernier. Et c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui a eu une telle influence dans la société occidentale en général, ce Jean-Paul Sartre. Il a dit un truc, il avait dit un truc qui était vraiment très célèbre, c'est « l'enfer, c'est les autres ». J'ai lu la plupart de ses livres. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, la critique de la pensée dialectique, et La nausée comme roman, et plein d'autres œuvres qu'il a écrites, que j'ai déjà lues, que j'ai bien aimées. Il a eu beaucoup d'influence également envers d'autres personnes, comme c'était le cas par exemple de Simone de Beauvoir, qui est pratiquement la papesse ou la personne qui a mis en place le féminisme dans le monde. Et c'était également son partenaire, sa partenaire de tous les jours, de la vie. Puis il y a d'autres gars comme Boris Vian, que j'ai beaucoup lu également, qui a écrit L'écume des jours et tout ça. Donc ces gens-là, ce sont les gens qui faisaient partie et qui font partie d'ailleurs d'un courant de pensée qui s'appelle l'existentialisme athée. L'existentialisme. D'ailleurs, l'une des citations fameuse, célèbre de Jean-Paul Sartre, c'est l'existence précède l'essence, par exemple. C'est qu'on existe d'abord avant d'être ceci ou cela. C'est dans sa philosophie. Et j'en parle parce que je crois que pour les personnes qui sont vraiment athées, qui ne connaissent pas Dieu, il représente vraiment l'esprit, la pensée et ce que ces gens-là vivent vraiment. C'est-à-dire la solitude, le fait de penser qu'on existe par hasard, le fait de penser qu'il n'existe pas de Dieu, mais c'est parce que j'existe que j'invente Dieu. Donc si je n'avais pas inventé Dieu, Dieu n'existerait pas. Donc je suis vraiment, mon existence est, voilà quoi, et précède toute chose quoi. Et que si je n'avais pas existé, rien de tout cela n'existerait. Tu vois, c'est tellement subjectif. Et c'est ce que avait ressenti ce gars, et c'est ce qu'il avait écrit. Et d'ailleurs, il a eu une telle influence sur la société occidentale en général que jusqu'à maintenant, avec la mondialisation, c'est encore là. Avec l'individualisme qu'il y a actuellement, avec tout le nihilisme dans lequel les gens vivent actuellement, où on ne croit plus en rien. Alors, tout ça, c'est à partir de ces gars-là, les existentialistes athées. Et, comme j'avais dit au tout début, l'une de ces citations, c'est « L'enfer, c'est les autres ». Et, quelque part, pour une personne qui ne connaît pas Dieu, justement, l'enfer, c'est les autres. Parce que, comme ils le disent également, les relations premières avec autrui sont toujours conflictuelles. Et c'est vrai. Parce que quand tu rencontres une personne que tu n'as jamais rencontrée, bah, tu ne vas pas te mettre à tout de suite parler avec cette personne, bien entendu. Tu vas te mettre, voilà quoi. Le truc que je veux vous dire par rapport à cela, c'est que le fait d'aller vers les autres, c'est difficile. C'est difficile parce que nous sommes timides par nature. Nous avons peur des autres. Nous sommes fiers aussi. Et c'est assez humiliant d'aller vers les autres. Puis nous avons des blessures dans la vie qui font que on fait gaffe, on fait attention. Et quand nous rencontrons les gens et tout, et que commence à avoir une relation avec les gens, on met souvent des masques au début. Je suis toujours tout sourire et tout. N'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire que cette histoire de relation est quelque chose de très importante dans la vie humaine en général. Et je me rappelle, depuis que je suis dans cette église, depuis, 15 ou 20 ans, on avait une sorte de slogan qu'on se disait entre nous tout le temps, c'est « Relation before function » et « Friendship before function ». C'est que avant de fonctionner ensemble, on a besoin d'être amis d'abord. Et c'est un peu un des dilemmes par rapport à notre église, là, par exemple, c'est qu'il y a des tas de gens qui sont très forts et très professionnels en termes de musique. On va pas aller les recruter pour jouer là, alors que ce sont des gens que nous ne connaissons même pas très bien. C'est une histoire d'état d'esprit. Tu vois? C'est de relations, c'est le fait de se connaître bien les uns les autres, autant rester comme ça, plutôt que d'aller chercher des professionnels et venir jouer là pour juste attirer du monde. Et à partir de ce moment-là, on va se mettre, il va y avoir plein de monde, mais ça sera zéro en termes de relations. Et ce n'est pas une église, ça serait juste une organisation. Tu vois? Donc c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Mon premier point, c'est c'est Jésus et le Père. En termes de relation, c'est que la relation trouve toute sa source dans Dieu, dans la Trinité même. Jean, chapitre 17, versets 9 à 11. Tiens, on est tous un peu lents là, parce que tu vois, avec les fêtes et tout ça, tu vois, même Daniel aussi, tu vois, elle manque de sommeil et tout là. C'est pour eux que je prie, c'est Jésus qui parle. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il y a Jésus là qui parle du fait que lui, Jésus, et le Père sont un, une même personne. Jean, chapitre 10, verset 30, dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Là, il s'agit de Jésus qui parle de sa relation avec le Père. Et cette relation avec le Père, c'est qu'ils sont une même personne, ils sont un. Et on retrouve cette relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par exemple, dans Jean, chapitre 15, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Vous voyez là, par exemple, là, Jésus est en train de parler de l'Esprit de Dieu, de son Esprit, l'Esprit de vérité qui vient du Père et qui rendra témoignage de Jésus lui-même. Là, on voit qu'il y a une relation qui est là en permanence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a d'autres versets que nous pouvons voir dans la Bible hein, concernant la Trinité qui est à l'œuvre ensemble, comme dans Genèse 1, par exemple, chapitre 1, verset 26-27, qui parle de Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Là, il s'agit de mariage, toujours de relation entre des êtres humains. Et c'est pratiquement la première chose que Dieu a créée en termes de relation, avant même l'Église, c'est le mariage entre l'homme et la femme. Mais derrière cette histoire de l'homme et de la femme, il est question de Dieu lui-même, la Trinité, qui est à l'œuvre en même temps. Dieu est en train de parler, il dit « nous ». Et cela est encore appuyé dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est par le Fils qu'il a créé le monde. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Genèse est encore repris ici dans Hébreux, parlant du fait que le Fils, le Père, étaient bien ensemble à l'œuvre et c'est ce dont il est parlé quand il dit « nous » à la première personne du pluriel. Et dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien qui n'a été créé sur terre. » Rien, tout ce qui a été créé sur terre a été créé avec la parole, et la parole, c'est Jésus lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient à l'œuvre en même temps depuis la création du monde. Et nous pouvons encore voir cela dans Marc, chapitre 1, versets 10 et 12, lors du baptême de Jésus. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, et tout en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Là, il est encore question de la Trinité qui est à l'œuvre, ensemble, et il est même parlé du fait qu'il y a le Père qui dit, « Voilà, c'est en lui, c'est en Jésus que j'ai mis toute mon affection. » C'est incroyable quand même, hein, cette histoire de relation que nous pouvons retrouver dans la Trinité. C'est pour vous dire tout simplement que la relation, c'est Dieu lui-même qui en est la source. Et toujours par rapport à à ce point où Jésus était en relation avec le Père, Jésus se retirait souvent pour être seul avec son Père. Nous pouvons voir par exemple dans Luc, chapitre 5, verset 16, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il passait beaucoup de temps à se retirer, à aller dans le désert pour aller prier et discuter avec son Père et louer son Père et recevoir ce que son Père a à lui dire. Et dans Luc, chapitre 6, verset 12 également, il est dit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. » Dans la version, là c'est la version Louis II, mais dans la version Darby, tu laisses, s'il te plaît. C'est de cette manière que ça a été traduit. Or, il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier. C'est-à-dire, en ces jours-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui s'est passé une seule fois, mais il le faisait très souvent en ces jours-là. Il alla sur une montagne pour aller prier et avoir une relation personnelle avec son Père. Donc, c'est pour vous dire que, déjà, la relation est importante parce que, déjà, à l'intérieur de la Trinité, il y a relation, mais il y a là Jésus qui est en relation permanente avec son Père aussi, et il pouvait se retirer de ses disciples, du monde, pour aller parler avec son Père dans le secret. Et il en est de même pour nous, pour pouvoir vivre une relation avec Dieu. Nous également, nous avons parfois besoin de nous retirer et de parler avec notre Père dans le secret. Marc, chapitre 6, verset 6. Je vais faire vite. Hein. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous avons également besoin de ça par moment, d'aller dans ta chambre, de fermer ta chambre et de parler à ton Père qui est dans le secret. Parce qu'il est là, il t'écoute, il veut une relation personnelle avec toi dans ta vie personnelle. Et c'est important. Toujours par rapport au fait que Jésus était en relation avec le Père, Dieu nous donne la solution pour nous permettre d'être également en relation avec lui. C'est Marc 12, chapitre 12, verset 28b à 31. Je prends juste 28b. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Oui, là il est question d'aimer Dieu de tout notre être, de l'adorer lui et lui seul, d'enlever tout ce qui peut être idolâtrie dans nos vies, c'est-à-dire d'aimer autre chose que lui, mais de l'aimer vraiment de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Et, à part cela, c'est également d'aimer son prochain. Là, on a l'impression que c'est un peu séparé, quoi. Il y a le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Mais dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40, il est dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, tout ce qui est dit dans la Bible, toute la loi qu'il y a dans la Bible, tout ce qui est dit dans les prophètes sont résumés dans cet unique commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force et d'aimer ton prochain. Parce qu'il s'agit du même commandement et cela est appuyé dans le verset 39, ce qui lui est semblable. Oui, c'est de Dieu que peuvent découler la possibilité de pouvoir être en relation avec les gens de manière saine. Parce que quand tu te mets à vraiment aimer Dieu de tout ton cœur, ça va en découler naturellement le fait de pouvoir aimer également ton prochain. Parce que là-dedans, il y a par exemple le pardon. Par exemple, hein, il y a le pardon. Tu as été pardonné par Dieu, en Jésus-Christ, par sa grâce, que tu as reçu, le salut que tu as reçu par la foi, uniquement par la foi. Tu es pardonné, tu es lavé, et du coup, il te donne la possibilité et la force de pouvoir pardonner l'autre. Et quand tu pardonnes l'autre, souvent ce qu'on dit, c'est que je voudrais pardonner cette personne-là parce que même si cette personne m'a fait du mal, je voudrais lui pardonner parce que ça me libère. Mais là, c'est encore égoïste de ta part. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que voilà, je vais me mettre à pardonner cette personne pour cette personne, pour que cette personne soit libérée. C'est toujours par amour. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose de très important si on veut parler de relations. Parce qu'on était en train de parler de relations là tout à l'heure. Ça nous amène, par exemple, j'ai donné l'exemple du pardon tout à l'heure, mais ça nous aide à être épanouis dans notre relation avec les autres. Et ça devient faisable. C'est un miracle, en fait. Les masques peuvent tomber. Les blessures peuvent guérir. Voilà. C'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est Jésus, il se retirait seul. Mais pour être avec son Père, mais le deuxième point, c'est Jésus, il aimait bien également se retirer et être avec ses disciples. Il se retirait seul parfois, mais il se retirait aussi avec ses disciples. Comme dans Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. C'est l'évangélisation, ça. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Incroyable, hein ? Ils se jetaient sur lui, mais vraiment la foule se jetait sur Jésus. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Waouh ! En fait, c'est tout, hein ? C'est l'évangélisation, en fait. Hein. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Jésus qui guérit les gens, qui libère les gens, qui attire les foules. N'est-ce pas? Bon, dans le verset 7 de Marc 3, nous avons vu que Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Il aimait bien être avec ses disciples. Et dans le verset 9, il est dit, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque. Mais une barque, tu te dis, ouais, Jésus, est-ce qu'il serait seul sur une barque? Non, il a demandé à ses disciples de tenir à sa disposition, c'est-à-dire que les disciples étaient toujours là pour s'occuper de cette barque à tout moment. Pour que, quand Jésus, un peu fatigué par tous ces gens qu'il y avait autour, un peu exténué parfois, il avait besoin d'aller se retirer pour se reposer sur cette barque. Voilà. Et c'est important parce que quand il va sur cette barque-là, contrairement à ce qui a été dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de se retirer de ses disciples pour aller vers la montagne ou dans le désert, là, il est avec ses disciples dans cette barque-là. Sans doute qu'il pourra demander à un des gars, là, ouais, masse-moi un peu le dos, là, ça me fait mal. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très normal, quoi. Je veux dire, Jésus, c'est pas un fantôme, quoi. C'est vraiment une personne qui était très normale, comme toi et moi, comme nous avons besoin d'être normaux également, par rapport à la vie de tous les jours. Donc, il y a Jésus qui aimait bien être avec ses disciples, parfois ensemble avec tous ses disciples. Enfin, ses 12 disciples-là. Et d'autres disciples encore. Parce qu'il en avait d'autres encore. Mais il arrivait également parfois qu'il prenait un disciple individuellement pour discuter avec lui, pour s'occuper un peu de ses problèmes à lui. Tu vois, comme c'est le cas par exemple, bon là on va peut-être pas lire, dans Jean 21, de chapitre 15 et 17, par exemple, où il est question de Jésus qui parle à Pierre, qui essaie de le guérir, parce que trois fois, Pierre a renié Jésus, et trois fois, il a amené Pierre à lui dire, oui, je t'aime, non, je t'aime, Seigneur, tu vois, pour le guérir. Il a besoin de prendre Pierre, particulièrement. Puis il avait d'autres disciples qui l'aimaient particulièrement, qui les dit parfois, comme Jean, par exemple, ou bien d'autres disciples comme Marthe et Marie, à Béthanie, par exemple. Ils venaient les voir, Marthe, Marie et Lazare aussi, hein, leur frère, et avec qui Jésus avait une relation particulière. Quand Lazare était malade, Jésus a dû fuir quelque part parce que Caïphe voulait l'emprisonner. Donc il est parti et voilà, du coup, Lazare est mort à Béthanie. Ça lui est arrivé de s'occuper de cette famille particulièrement. Par exemple, je veux dire, Jésus, il était comme ça. Et d'une certaine manière, nous aussi, il nous amène à être comme ça. Il nous amène à vouloir, à pouvoir vivre notre vie avec lui, ensemble. Ben, ensemble, comme nous le faisons là actuellement, par exemple. Comme nous l'avons fait. Bon, j'étais pas là, mais j'étais là en esprit, quoi. Le 14 décembre, quand vous aviez le Christmas Carols que vous avez fait ici, par exemple. Tu vois, c'est être ensemble dans ces moments-là. C'est important. Dans les groupes de maisons, par exemple, où vous êtes, tu vois, c'est d'être ensemble. Moi, je vois, par exemple, le groupe de maisons de tous, là, oh là là, ils s'aiment entre eux, mais ces gars-là, ils vont tout le temps dans les restos ensemble, c'est les selfies, parler. Tu sais, oh là là, ils friment même, tu vois. Trop même, hein. Ils friment trop même, tu vois. Ils sont incroyables, les gars. C'est photo parce qu'ils disent, ah ouais, ouais. En plus, ils t'invitent même pas. C'est ça, tu vois. Pff, incroyable. Non, le truc que je voulais vous dire par rapport à cela, c'est que nous avons besoin d'être ensemble. Parce que c'est l'Église. C'est pourquoi on appelle l'Église également, en français, l'Assemblée. Et c'est biblique. C'est le fait d'être ensemble. Et là, je voudrais quand même dire, pour ceux, je sais que vous n'êtes pas comme ça, hein, mais pour ceux qui butinent d'église en église, là, tu vois, tu peux pas vraiment former, tu peux pas vraiment fonder de vraies relations si tu butines d'église en église. Parce qu'en fin de compte, tu n'auras pas des personnes avec qui tu pourrais vraiment être ensemble, quoi. Il n'y a pas d'église fixe, tu butines d'église en église. En plus, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, en termes de théologie, c'est pas bon parce que tu vas dans telle église, ils te disent qu'une fois que tu as ton salut, ici par exemple, une fois que tu as ton salut, tu ne le perdras plus. Tu vas dans une autre église qui te dit, ouais, attention, tu vas reperdre ton salut, là. À quoi tu vas croire, tu vois, tu vas te mettre à avoir des problèmes, dans ta manière de voir Dieu, quoi. Tu ne sauras plus. Vous comprenez? Autant être fixé là où Dieu t'a appelé à être. Et puis, il faut arrêter avec cette histoire de consumérisme là dans lequel on se met là en ce moment, quoi, partout dans le monde. Hein. Le consumérisme, c'est le fait de surconsommer, quoi. C'est de consommer un peu de ceci, de cela. Tu vas dans un supermarché, tu dis, ouais, je vais prendre tel produit, tel autre produit, tel autre produit. Mais en fin de compte, c'est un peu de cette manière que les gens vivent. Même leur vie avec le Seigneur parfois. C'est écouter un peu cette radio-là, Et puis, ça me suffit, parce que ça ne me suffit pas, tu vois, ce qu'il y a à l'église, là, je vais me mettre à écouter cette radio, et là, tu vas entendre des trucs vraiment différents, et tu ne sauras plus où te mettre, tu vois. Et tout ça, c'est du consumérisme, en fait. Et vouloir toujours manger, 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 tu vois, tu vas finir par être obèse. Ouais, ouais, tu es en train de me... Voilà. Et nous aussi, à part le fait d'être ensemble, Dieu nous amène également à avoir des amitiés, c'est une relation avec chaque individu particulièrement, entre nous. Ça, c'est important aussi. Moi, par exemple, tu vois, il y a des gars ici, comme Toots, par exemple. Hein. Je sais pas, j'ai un problème de voiture, je l'appelle. Allô, Toots, tu peux me filer ta caisse? Il me dit, ouais, ouais, prends ma caisse là, je te file la clé là, viens chez moi, moi je suis à moto là. Demande à ma femme, tu vois. Donc je prends la caisse et puis j'y vais, quoi. Sans aucun problème. Tu sais pourquoi? On peut se faire ça? Enfin, c'est un peu exagéré, il y a des moments, c'est lui qui me conduit. Vous savez pourquoi on peut se faire ça? C'est parce qu'on se connaît bien. C'est parce qu'on est amis. On ne pourra jamais se faire ça si on n'est pas amis. S'il y a un gars là qui s'amène que je ne connais pas, qui va me dire, ouais, file-moi, je te connais pas, je sais pas trop. Donc, on a besoin, voilà, entre amis, il y a des choses comme ça qu'on peut se faire. Il y a Steph, lui, il m'écoute jamais quand je prêche, il se met dehors. Steph, il va à l'aéroport. Moi, j'habite à l'aéroport, à l'intérieur de l'aéroport d'Ivat. Donc, imagine un peu, il vient, s'il m'appelle sans aucun problème, hein. Si jamais il m'appelle, il me dit, là, je suis en train de prendre un... Tu vois, il est encore en relation avec les parachurch et tout ça. Ouais. Il vient chercher un gars à l'aéroport d'Ivat. Il me dit, allô, Angie, je suis à l'aéroport, là. Je peux venir chez toi? Je lui dis, bah, je ne suis pas à la maison, mais vas-y, quoi, rentre. Il pourra venir chez moi sans aucun problème. Il pourra me dire, ouais, ouais, j'ai un peu soif, là. Bah, je vais prendre une bière dans mon frigo, là, sans aucun problème. Vas-y, hein. Mais il me dirait, ouais, 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 mais moi, je ne bois que la bière, que la gold blanche. Bah ouais, il y en a dans mon frigo tout le temps, la gold blanche. Vas-y, prends-en. En fait, c'est pour lui que j'achète ça, c'est pas pour moi. Moi, je prends la gold... moi, je prends la gold blonde. OK, par exemple, quoi. Je veux dire, on a besoin d'être amis, de se connaître les uns les autres. Mon dernier point, c'est Jésus. Mon premier point, c'était Jésus. Il était en relation avec son Père. De deux, il était en relation avec ses disciples. Et de trois, Jésus était en relation avec les pécheurs, avec les malades, avec la foule. Marc 3, 7 à 18, que nous avons lu tout à l'heure. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude, le suivit de la Galilée et de la Judée. Et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr, et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir, etc., comme on avait vu tout à l'heure, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Donc les gens, ils venaient, il était en relation avec ces gens-là, il était en relation avec la foule, avec la multitude. Il était en relation avec les malades, il était également en relation avec les pharisiens. Hein, il était en relation, il parlait avec les pharisiens. Et il pouvait également être en relation avec une personne en particulier souvent. Tu vois, par exemple, il va parler à Nicodème, ou il va parler à Zachée, par exemple, tout seul. Tu vois, il était comme ça. Mais il y a juste trois petit point que je voudrais développer par rapport à Jésus qui était en relation avec le monde, quoi. C'est que par rapport aux pharisiens, souvent Jésus, quand il était en relation avec les pharisiens, c'était tout le temps en conflit, quoi. Tout le temps des conflits. Il se battait tout le temps avec les pharisiens. C'est incroyable. Mais vraiment, c'était avec les pharisiens. Et tout ça parce que Jésus, ce qu'il voulait faire, c'était d'apporter le salut. Ce qu'il voulait, c'était d'apporter une relation, notamment d'amener les gens à être en relation avec le Père, d'avoir une vue vraie, véritable, juste de ce que le Père est, c'est-à-dire la grâce et la bonté que le Père a. En fait, Jésus, il avait souvent des problèmes avec les pharisiens. Ce n'était pas vraiment les pharisiens son problème, mais c'était le pharisaïsme qui était incarné en ces gens-là, et ça le dégoûtait. Tu vois, c'était de vouloir mettre les gens sous la loi, sous le joug de la loi. C'était la fierté, l'orgueil que ces gens avaient. C'était tout ce qui était derrière la religion qu'il y avait là-dedans. Et d'ailleurs, si nous lisons dans Marc chapitre 2, versets 15 et 17, il est dit « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, quand Lévi l'a invité à venir chez lui, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà, Jésus est venu pour nous et pour eux. Nous sommes des justes maintenant, parce que nous avons été justifiés. Mais nous avons besoin d'aller vers ceux qui n'ont pas encore été justifiés, vers les pécheurs, et leur parler de celui qui justifie, si on se tourne vers lui. Vous voyez ? C'était l'ami des pécheurs, c'était l'ami des escrocs, c'était l'ami des fumeurs de cannabis, c'était l'ami des putes, c'est des prostituées, ok. C'était l'ami des homosexuels. Oui, c'est l'ami de tous ces gens-là qui venaient à lui parce que ces gens-là avaient besoin d'être sauvés. C'était l'ami des malades. C'était l'ami de ceux qui ont perdu l'espoir. Et nous également, nous devrions être comme cela. Aller vers ces gens-là, là où ils sont. Mais pas se croire supérieur. Voilà. Déjà, c'est le premier point là-dedans. Jésus et les pécheurs. Le deuxième point, c'est que il n'y a pas eu beaucoup d'organisation dans tout ça. Ce n'était pas l'organisation d'une ce qu'on appelle une croisade évangélique ou l'organisation d'un d'un événement particulier. Mais c'était souvent des réunions spontanées ensemble. C'est-à-dire que Jésus, il allait dans la vie de tous les jours des gens, dans la vie quotidienne des gens. C'est là où il y a des fêtes, par exemple, comme c'était le cas à Cana. Imaginez un peu, il a changé l'eau en vin, de l'eau où il n'y avait pas d'alcool, en du vin où il y a de l'alcool. Et ne venez pas me dire que, ouais, il aime bien être avec ces gens-là. Et ce qu'il avait fait à ce moment-là, c'était beaucoup de vin. Hein. C'était dans des jarres qui faisaient entre 30 et 600 litres. Incroyable, hein. C'est que les gens devaient être pompettes. Mais il est venu vers ces gens-là parce que c'était une fête, parce que c'était un mariage à Cana. Qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il allait aussi vers là où il y a des décès. Il y a des gens qui sont morts. Il s'est occupé de Marie et de Marthe, mais d'une manière incroyable qu'il a ressuscité Lazare des morts. Mais il est allé également là où il y a cette fille. Jairus en français? Oui, par exemple, la fille de Jairus. Par exemple, chef de la synagogue, ça doit être un religieux, mais grave. Hein. Mais il est allé vers ces gens-là, n'est-ce pas? En fait, les fêtes que nous organisons, là où il y a parfois des décès dans nos familles, ce sont toujours des opportunités pour nous de parler de Jésus. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, je pense que les fêtes qu'on organise en général, c'est des fêtes qu'on organise pour pouvoir parler de Jésus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord, le 10 mars de l'année dernière, nous avons commencé l'église. Et le 10 mars, c'est mon anniversaire en même temps. On fera la fête. On fera la fête le samedi 7 mars, si ça vous dit. OK ? Samedi 7 mars et le dimanche 8 mars, nous allons célébrer cela ici. Et ce samedi 7 mars, parce que ce sera mon anniversaire, j'aurai 45 ans, hein, un peu vieux le gars, hein, je vous invite chez moi. OK ? Et ce que je voudrais vous demander, c'est d'inviter quelqu'un avec vous. Quelqu'un qui serait susceptible de venir le lendemain. Bah, comme Clark, là, par exemple, ton frère. Invite-le. À Candice, par exemple. Ou je ne sais pas, vous connaissez peut-être d'autres personnes. Invitez quelqu'un. Et ce sont des gens que nous allons également amener pour la célébration de ce premier anniversaire de l'Église francophone le lendemain. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez, au lieu d'aller organiser une croisade évangélique quelque part, alors que c'est vrai que ça peut toucher des gens. Hein. C'est vrai, ça peut toucher des gens. Et surtout à un certain moment, dans les années 70. On peut faire quelque chose ensemble comme ça. Mais on peut également toucher des gens individuellement, là où on va d'habitude, là où on travaille. Moi, je connais ma femme, par exemple, il y a quelqu'un là à son boulot qui lui dit « Ouais, j'ai envie d'aller à ton église, il faut l'inviter maintenant à venir ici. » Puis comme ça, voilà, il y a des tas de gens comme ça, là où tu travailles. Hein? Là où tu vas à l'école. Il faut voir des gens individuellement. Bah, ton frère, par exemple. Tu vois? Et où est-ce que nous allons voir ces gens-là individuellement? Souvent, c'est dans les bars. C'est dans les clubs où nous nous trouvons, n'est-ce pas? On s'inscrit à tout ça, mais pourquoi faire des clubs? Si nous allons dans un bar, c'est pourquoi? C'est pour boire. Pas seulement, mais également d'être en relation avec d'autres personnes. OK? Le dernier point, avant que je finisse, pour finir, je veux dire, c'est que Jésus n'a pas créé une secte. C'est-à-dire que, déjà, s'il te plaît, Daniel, Marc chapitre 5, versets 1 à 20, ça va être un peu long là, mais bon, je veux dire pour lire. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait pour 2000, environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, et les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, Ainsi, vêtus dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Et ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Reviens un peu, s'il te plaît. Voilà, et etc., etc. En fait, reviens un peu au verset d'avant. Voilà. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il voulait rester avec Jésus, le gars. Il venait d'être complètement... C'était un gars qui avait plein de démons en lui, que Jésus a libéré, et que ces démons avaient été envoyés dans des cochons. Tu te demandes pourquoi il y a des cochons de ce côté-là du monde, hein, là où les gars, ils ne mangeaient pas du tout de cochons, hein, mais il y a des cochons. C'est les juifs qu'il y a là-bas, et les juifs ne mangent pas de cochons, ni même les arabes qu'il y a autour, quoi. Et là, voilà, quoi, il y a des cochons, c'est bizarre. Mais voilà, il y a donc les démons qui sont entrés dans le cochon. Et une fois que le démoniaque est libéré, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Jésus, « Donne-moi la permission de rester avec toi, je veux te suivre partout. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit? « Non, va, il dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Jésus, ce n'est pas une secte. L'Église n'est pas une secte. Jésus veut qu'on aille vers là où nous vivons dans notre vie de tous les jours. Va vers les tiens. Apprends à vivre de nouveau avec les tiens. Il fut un temps où tu ne vivais pas avec les tiens. Tu ne vivais pas dans ta maison, tu vivais dans les sépulcres. Rentre chez toi et apprends à vivre avec ta maison, avec les tiens. C'est de cette manière que Jésus voit les choses. Et dans Actes, chapitre 1, verset 9 à 12, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Donc là, il s'agit de Jésus qui est monté au ciel. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Sabbat. Là, les disciples étaient là. Ils étaient en train de regarder Jésus qui montait au ciel pendant l'ascension. Ils étaient là, ils ne bougeaient pas. Et il y avait deux hommes vêtus de blanc, sans doute des anges, qui leur disaient, « Eh les gars, partez là. Restez pas là, attendre là tout le temps. » Tu vois, Jésus, l'Église, n'est pas une secte. Il ne veut pas qu'on ait une relation incestueuse entre nous. Excusez-moi pour le mot, hein. Mais souvent, c'est un peu le cas. On aime bien être ensemble entre nous, et c'est bien. Mais c'est souvent incestueux. Entre nous, on ne va pas vers les gens. Et c'est un peu ce qui se passe dans les sectes apocalyptiques, là. En train de regarder Jésus monter au ciel. Il attend de revenir, là. Et parler de cela tout le temps. Quand est-ce qu'il reviendra? Il reviendra le 31 janvier. Quand est-ce qu'il reviendra? C'est la fin des temps, là. Et discuter de tout ce qui est eschatologique et tout ça. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut que nous vivions. Il faut cesser de regarder au ciel et juste l'attendre. Oui, nous l'attendons. Vous voyez? Mais nous avons besoin d'aller vers les gens. Et voilà quoi. L'Église, ce n'est pas un monastère. On ne nous appelle pas à être des moines. Excusez-moi, mais souvent, tu vois, on ne veut plus que je dise des noms d'Église, tu vois. Il y a des églises, les églises qui ne sont pas protestantes, quoi. Tu vois, ils ont des monastères. Ils ont des monastères. Ils ont des moines, des gens qui se retirent de la vie vraie, quoi. Et d'aller vers les monastères et de rester seuls là-bas. Ils ne veulent plus être en relation avec le monde. Ils veulent être en relation avec Dieu tout seul. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent trouver là-bas, mais bon. Tu sais, avec les gens, oui, enfin, ils sont sectaires. Et puis, même dans leur façon de voir les choses, ils aiment bien voir les pauvres sous assistanat permanent. Enfin, globalement, c'est ça. Et je vais vous montrer une petite vidéo de 2 minutes qui parle d'un gars. C'est bizarre, hein. En fait, j'ai vu ça sur Canal+. Il y a une émission qui s'appelle de Antoine de Maximi, là, qui « J'irai dormir chez vous ». Et il était dans une région dans le monde et il a rencontré un gars, un saint homme, quelque part dans ce pays-là. Un saint homme un peu de la lignée, un chorio religionnaire celui qu'on appelle communément sa sainteté, le Dalai Lama. Oui, oui, oui. Et écoutez bien, il faut qu'il y ait vraiment on entende bien la discussion qu'il a eue avec ce saint homme. Ce n'est pas le Dalai Lama, hein, mais c'est l'un de ses disciples. Au revoir, hein. Salut. J'ai fini. C'est bizarre. Attends, hein.